Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans Planète Ciné. C'est la nouvelle émission de Radio Campus Po qui concerne le cinéma. Aujourd'hui, je suis avec Morgane.
Bonjour.
Et Maxime.
Bonjour.
Donc, on espère que tout le monde va bien. Pour cette émission, cette année, on a choisi de reprendre un concept qui a été fait avant. Donc, le concept, il est simple. On choisit un thème. Cette année, c'est l'écologie. On choisit trois films en rapport avec ce thème et on les présente. Voilà, c'est à peu près tout. On garde en perspective l'idée de sensibiliser l'auditoire et de faire ressortir les messages forts dans les films. Donc cette année, il y a une nouvelle direction artistique qui a été prise, c'est pour ça que l'émission a pris pas mal de retard. Voilà, la radio change un peu de direction et on a pour projet de sensibiliser plus les étudiants à des causes importantes. Donc à travers le cinéma, on a choisi l'écologie, on trouvait que c'était important d'en parler, même si c'est une industrie qui pollue pas mal et qui fait tout pour s'améliorer. Mais donc voilà, on a choisi de parler d'écologie. Et pour cette émission, on a choisi de parler des éléments, donc l'eau, le vent, la terre et le feu. Il y a énormément de films qui parlent indirectement d'écologie, et lorsqu'on s'y intéresse de plus près, il y a certains messages qui sont passés qui peuvent être très forts. Et il y a vraiment énormément d'exemples qu'on pourrait donner sur l'écologie. Donc voilà, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce thème ?
Ben, moi, j'aime beaucoup, parce que ça permet de parler d'un sujet où je ne serais pas forcément à l'aise, c'est-à-dire je ne m'y connais pas beaucoup en termes de planète, tout ça. Je sais que c'est important de protéger tout ça, mais je n'y connais rien. Mais quand on passe par le cinéma, je trouve ça intéressant, c'est ludique, et ça permet de se renseigner à travers le cinéma. Et c'est parfait, parce qu'on adore le cinéma.
Moi, je trouve que c'est un sujet super intéressant. C'est vraiment d'actualité en plus. Et ça touche tout le monde, en fait. Ça touche le monde entier, sans distinction. Et c'est important d'en parler.
Ouais, et puis quand on regarde un petit peu, en fait, on se rend compte que même des films très populaires, comme vous allez voir après, franchement... Bon, nous, avec Maxime, on n'a pas été hyper original,
ouais.
Vous verrez. Mais on se rend compte qu'il y a des films très populaires qui, au final, sensibilisent à l'écologie, même si ce n'est pas le message principal. Donc, c'est plutôt intéressant. Après, on sait que ce n'est pas, on va dire, un sujet qui est très, très ancien dans le cinéma. C'est quelque chose qui est abordé en tant que sujet principal, pas depuis très longtemps, mais bon, on n'est plus que jamais concerné par ça, et c'est vrai que le cinéma est un moyen très très intéressant de parler d'écologie et même de se rendre compte des actes qu'on peut avoir envers la nature et qui sont importants de souligner.
Oui, c'est ça, le cinéma il a filmé la nature depuis quasiment son origine, mais il n'a jamais vraiment eu une réflexion dessus depuis les années 90, 2000, c'est apparu à peu près. Voilà. Mais comme dans la société au final.
Ouais, voilà, c'est ça. Même quand on se rend compte, même dans la société d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est pas non plus abordé depuis très longtemps. Enfin, moi, je vois la génération de nos parents, etc. C'était vraiment pas le sujet principal à ce moment-là. Mais bon, il faut s'y intéresser, c'est important. Et c'est bien que là, vous allez voir, à part le film de Morgane, ça reste quand même assez récent. Donc bon, on verra. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Non.
Non, allez, on peut super. Commencer.
Ok, génial. Donc, je rappelle le concept. On a choisi trois films en rapport avec les éléments. Donc, on a choisi l'eau, le feu, non, l'eau, la terre et le vent. Le feu, on vous le présentera à la fin parce que, comme on n'est que trois, on a dû choisir trois films sur ces éléments-là. Et le feu, il y aura un débat un petit peu plus ouvert. À la fin, donc c'est Maxime qui va commencer, je te laisse présenter ton film.
Oui, alors moi je vais vous parler de l'eau, et je me suis dit pour l'eau, quel film parle vraiment, évoque vraiment et filme vraiment l'eau. Et tout de suite, j'ai eu Avatar, la voix de l'eau, donc la suite d'Avatar, qui est sortie fin 2022, réalisé par James Cameron, écrit par lui aussi, et ses compères Rick Jaffa et Amanda Silver, donc qui sont des collaborateurs de James Cameron. Donc le film raconte l'histoire des membres de la famille Sully, donc les personnages principaux du premier Avatar, les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu'ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent. Alors ça, c'est le synopsis officiel du film, donc, qui ne raconte absolument rien. Ce qui se passe, c'est du coup que à la fin de Avatar, donc Avatar, c'est déjà le premier film est déjà beaucoup porté sur la nature, mais pas forcément l'eau. C'est surtout la nature, les animaux, voilà. Et donc ils se font déloger de ce village très jungle par là à la fin du deuxième, au début du deuxième film. Et donc ils vont au village du clan Metkayina, donc qui est influencé par les peuples d'Océanie, tout ça, qui est un peuple marin. Et du coup, les 3 heures écart de Avatar, la voix de l'eau, sont dédiées à ce nouvel écosystème dans lequel ils évoluent. Et donc, non seulement ça a été tourné dans des bassins, donc c'est tourné en Nouvelle-Zélande, Avatar, mais dans des vrais bassins, donc voilà. Donc il y a un rapport direct avec l'eau, puisque les caméras étaient sous l'eau, quoi. Mais aussi, dans le film directement, c'est ça qui est peut-être un peu plus intéressant, il y a un vrai rapport à la nature. Notamment une longue scène de chasse à la baleine, donc les baleines d'Avatar qui s'appellent les Tulkun. Et il montre, donc James Cameron filme deux scènes de chasse séparées qui se suivent. À la fois la scène de chasse du peuple, du clan Metkayina, qui est une chasse plutôt traditionnelle, harpon, tout ça, qui est montrée comme étant nécessaire. Hein. Puis il y a une scène de chasse industrielle, d'un gros navire des méchants du film qui pêche du coup les Tulkun pour avoir une espèce de huile de Tulkun, voilà. Donc évidemment ça reflète la réalité avec la surpêche contre la pêche plus artisanale qui est vraiment nécessaire, donc c'est un message intéressant. L'eau, ça a toujours été dans les films de James Cameron, puisque bon, James Cameron, je vais vous le présenter rapidement, mais il est très connu, il a réalisé Titanic, Aliens, The Abyss, Terminator. Déjà dans deux films que j'ai cités, Titanic et The Abyss, l'eau est présente partout. On se rappelle tous la fin de Titanic. Je veux dire, voilà, c'est... Et James Cameron, au-delà de la filmer, c'est vraiment d'ailleurs un homme passionné par les océans, puisque notamment en 2012, ça devient un des premiers hommes, donc dans son équipage, à aller toucher le fond de la fosse des Mariannes, qui est donc à 11 km de profondeur dans le Pacifique, qui est la fosse la plus profonde du monde. Il explique que James Cameron, il ressent une vraie connexion à l'océan, en fait, qu'il veut essayer d'exprimer à travers son cinéma. Et c'est ce qu'il essaie d'exprimer à travers tous ses films, et surtout via ce deuxième Avatar. Moi, j'ai beaucoup aimé ce deuxième Avatar, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Voilà. C'est un grand rapport avec l'eau. C'est dans le titre.
C'est sûr. Tu laisses commencer ou tu veux que...
Bah du coup, pour...
Non, pour...
Pour argumenter.
Ouais.
Oui, bah du coup, moi, c'est ce qui m'intéressait le plus dans ce film, c'était vraiment la question du braconnage des baleines, honnêtement. Parce que c'est un combat qui persiste toujours aujourd'hui dans la réalité. Hein. Et genre, vraiment, il y a beaucoup d'associations qui se mettent... Je sais pas si vous connaissez Sea Shepherd,
ouais. Mmh.
Super connu et tout. Surtout, bah, il y a pas longtemps, là, il y a Paul Watson, il y a eu toute l'histoire derrière. Et ça a donné beaucoup de notoriété à ses actions. Moi, personnellement, récemment, j'avais lu un livre qui parlait du braconnage des baleines. Et ça m'a énormément touchée. Et ça me faisait penser, du coup, au film Avatar. Mmh. Je sais que la question, elle reste quand même un peu secondaire dans le film, particulièrement face au plot, on va dire, du méchant contre les gentils et tout, qu'on retrouve tout le temps dans les films de James Cameron, surtout les deux Avatars. Mais je pense que c'est une question du film qui devrait être mise plus en avant, en fait. Du coup, c'est bien que t'en aies parlé, je trouvais ça super intéressant de le mettre en avant.
Ouais, c'est ce qui est intéressant avec James Cameron, c'est qu'il fait des grandes histoires classiques, je trouve, hollywoodiennes, c'est-à-dire le bien contre le mal, des personnages auxquels on tient, contre des grands méchants. C'est assez cliché, hein. Mais il les met dans un rapport avec la nature. Donc dans le premier, c'était avec la faune et la flore plutôt amazonienne, et dans le deuxième, c'est avec l'eau. Dans le troisième, ce sera avec le feu, d'ailleurs, qui sera à la fin de l'année. Et je trouve ça intéressant de ce mélange-là. Et ça permet de sensibiliser à travers des longues odyssées comme ça, 3 heures, c'est passionnant. Voilà.
Bah ouais, c'est ça, parce qu'en plus, il a quand même eu le temps de le réfléchir. Il y a eu combien de temps? 13 ans?
Ouais, 13 ans.
Oui, oui.
13 ans quand même, entre les deux opus. Bon, là, ça y est, ça s'enchaîne, donc on comprend pourquoi il y a eu autant d'attentes. Après, évidemment, si vous, enfin, au niveau de l'intrigue et des liens qui tissent un peu tous les personnages, ça reste très classique, mais c'est sûr que...
Mais ça marche.
Ouais. Non mais oui, c'est sûr, mais visuellement ça reste quand même un film extraordinaire et c'est en fait je trouve qu'il représente très bien un écosystème magnifique. Et en fait quand on voit l'organisation, c'est la RDA.
Ah oui, voilà. Oui, la RDA, ouais.
C'est la RDA. Quand on voit la RDA qui débarque avec des plus grosses machines que dans le premier encore, que je savais même pas que c'était possible. Là, de ce que je l'ai vu quand c'est sorti, je l'ai pas revu depuis. Mais j'en garde quand même, je me souviens, je pense, de 80% du film à peu près. Mais quand on les voit débarquer avec les énormes engins qui détruisent tout sur leur passage, ça fait quand même beaucoup de peine. Il me semble aussi qu'il y a une bonne partie sur la déforestation, surtout dans le 1.
Oui.
Ça fait quand même... Il y a quand même un gros point qui est mis sur l'écologie et sur le traitement qu'on a avec la nature. Donc voilà, dans le 1, il y a l'écologie, enfin, il y a la déforestation, etc. Dans le 2, ben, comme vous avez dit, c'est plus tourné sur le braconnage des animaux, en particulier des baleines. Et je trouve que c'est une saga qui met beaucoup l'accent sur le respect de la nature et sur la relation qu'on devrait avoir avec la nature, donc une relation de respect, de curiosité, plus que d'exploitation... De base, ça fait beaucoup écho à la réalité. Enfin, la déforestation, c'est pas une légende. Pour extraire soit des minerais, soit tout ce qui peut être nécessaire à de la consommation ou à de la richesse. On garde aussi dans le 2, ce que je trouve intéressant, c'est cette relation de un peu de colons avec les indigènes, avec les navis et les humains, ce qui est beaucoup mis en valeur dans le 1, mais qui est gardé un peu dans le 2 aussi. Je trouve intéressant le personnage de Jake qui a quand même beaucoup évolué, qui a appris à apprivoiser la nature et à être curieux et à respecter surtout cette nature où il est, on le voit dans le premier film où il arrive vraiment dans une optique de il découvre mais il est un peu méfiant, du coup il veut un peu tout détruire, ce qu'il comprend pas, etc. Et je trouve que le personnage dans le 2 c'est intéressant, on peut s'identifier à lui parce que c'est du coup, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui a appris à respecter la nature et c'est un personnage très intéressant. Après, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, voilà, on a une vraie sensibilisation de la nature. Ça fait quand même. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais sorti de la salle, on réfléchit quand même un peu plus sur nos actes
ouais.
concernant notre relation qu'on peut avoir avec la nature, quoi.
Ouais, et puis surtout quand on est dans les 3h15 d'Avatar, cette durée-là, on a l'impression d'y être, en fait, sur Pandora. Et quand on en sort, on a envie d'y revenir, en fait. Et on se dit, en fait, en soi, on y est, sur la planète. On a tout ça, mais on est en train de le détruire. Et comme tu dis, ça permet d'avoir une réflexion, c'est intéressant.
Mais je pense que c'est l'idée de James Cameron. C'est pour ça qu'il pousse pas tant sur les scénarios et trucs comme ça. C'est parce qu'en fait, il met tellement d'efforts sur le visuel pour se dire, vous voyez ça, c'est ce que vous détruisez, et du coup, ce que vous avez pas. Moi, j'avais entendu parler de... Quand le premier est sorti en 2009, je crois que c'était... Il y a eu beaucoup de spectateurs, bon, principalement américains, parce que c'était là-bas qu'il a eu le plus grand succès, mais ils étaient atteints, on va dire, du Pandora syndrome. C'est une dépression qui a suivi la sortie du film, parce que les gens étaient tellement tristes de pas pouvoir vivre dans ce genre d'environnement que, en fait, ça a causé, des maladies. Ouais. Moi, j'avais trouvé ça hallucinant. J'étais comme ça. Ouais.
Une espèce d'anti-urbanisme qui s'écrit.
C'est ça. Alors que, en soi, enfin, ils participent tous les jours dans leur façon de vivre à cette destruction, on va dire. Et il y a un autre truc que je trouve super intéressant dans les films de James Cameron, bon, surtout dans les deux Avatars, c'est la continuité qu'on a entre les deux. Par exemple, dans la fin du premier, on a toujours l'impression que oui, ils ont réussi à vaincre les humains qui sont repartis chez eux et tout. Et on se rend compte dans le début du deuxième qu'en fait, pas du tout. Ils sont là et ils continuent à détruire. Ils ont notamment détruit la forêt où vivait la famille des Sully. Ouais. Et c'est là on voit en fait l'évolution de l'homme dans la nature. Il a détruit la forêt en premier, comme ça a été le cas dans la réalité. Et là, il s'attaque aux océans. Et enfin, il cherche toujours à aller plus loin. Et on se dit, mais vraiment, ça s'arrête pas en fait.
Exactement comme dans la réalité, quoi, donc c'est sûr. Mais alors, du coup, est-ce qu'on peut se demander par rapport au troisième opus, de ce que j'ai vu des visuels, etc., ça a l'air beaucoup plus peut-être axé dans le conflit ou quelque chose comme ça.
Ouais, j'avais vu aussi que Cameron il allait introduire dans le 3 des navis qui seraient mauvais et méchants. Je me demande où il veut aller avec ça parce qu'en fait, pour moi, les avatars c'est assez. Comment dire ? C'est le bien contre le mal, c'est-à-dire un peu les navis, la nature contre les humains méchants industriels. Et je vois pas. En introduisant des mauvais navis, je sais. En fait, c'est intéressant, mais sur le message, qu'est-ce qu'il veut dire tout ça ? Je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, est-ce qu'il met de la nuance dans son propos, tout ça ? Ça va être super intéressant, je trouve.
Bah, moi, je me dis qu'il commence à se détacher du scénario classique qu'on retrouve. Dans le premier, il y a vraiment cette distinction stricte entre les méchants humains et les gentils navis. Et dans le 2, je pense qu'elle commence à devenir un peu plus floue, cette frontière, surtout avec le personnage du colonel, je crois, le méchant principal dans le premier, qui déteste vraiment les navis. Dans le premier, il les déteste, mais genre vraiment, c'est...
Ah, c'est physique, quoi.
C'est, ouais, voilà. Et dans le deuxième, il en devient un lui-même.
Ouais, et puis il est un peu humanisé avec, ouais, avec fils, son tout fils ça. Et tout. Et puis on voit aussi que le clan de l'océan des navis, enfin les maîtres Kaina, sont un peu reluctants. Oula.
Ouais, ils sont contre.
À recevoir la famille de Sully, ouais. Tout ça dans un premier temps. Du coup.
Du coup, je pense que il commence à faire. Enfin, je sais pas trop, mais je pense qu'il commence à complexifier un peu les scénarios, et ça peut donner quelque chose de super intéressant. Faudrait juste pas qu'il décide de juste inverser le processus où là c'est les navis qui deviennent méchants et les humains qui deviennent gentils, parce que ça
jamais le cas chez Cameron.
Non, parce que mais je trouverais ça bizarre aussi.
J'ai peur qu'en fait s'il nuance trop, que les gens comprennent plus du coup,
parce qu'on se dit en fait on est les navis et les humains, c'est exactement la même chose,
c'est ça en fait. Exactement. Moi c'est pour ça, je trouve ça super qu'il introduit de la nuance, mais j'ai peur que les gens en retirent mauvais message, quoi.
On verra, franchement. Ça sort à la fin de l'année, là, c'est ça ?
Ouais, décembre 2025.
Et après, ça s'enchaîne tous les ans ?
Non, après, c'est 2029 et 2031. Voilà.
Putain, c'est déjà...
Et ouais.
5 ans jusqu'au...
Ouais, 4 ans, ouais.
Ah ouais ?
Bah, ouais, faudra attendre. Ah, mais bon.
Après, on a attendu 13 ans pour le deuxième, je pense que...
Oui, c'est ça. Alors moi, par contre, moi, quand j'ai été dans la salle, j'y allais, mais franchement, j'avais perdu toute la hype autour d'Avatar. Vraiment, j'y étais parce que j'avais beaucoup aimé le premier film, mais j'y ai pas été dans une optique de « Oh, c'est la suite ».
Mais parce qu'en fait, Avatar, je trouve, ne fonctionne pas dans une hype traditionnelle, en mode, je sais pas, comme les autres grandes sagas, en mode, je sais pas, Marvel, ou à l'époque Harry Potter, je sais pas. Ça fonctionne pas comme ça, et ça fonctionne sur une plus longue durée. Et c'est bizarre, je trouve, même Avatar, mais ça marche toujours, donc t'as mieux.
Et c'est, ouais, et puis, alors là, je suppose qu'il va y avoir une plus grande hype entre les 2 et le 3, parce que là, vraiment, on commence à avoir un univers très étendu. Tandis que, au final, quand on avait fini le premier Avatar, on se disait, mais sur quoi il va faire la suite ? Et maintenant que c'est lancé, quoi.
Puis en fait, le 2, déjà, il y a 3 ans, mais les gens savaient déjà qu'il y avait une suite. Enfin, voilà. L'Avatar 1, ouais, ça faisait 13 ans.
Voilà, c'est sûr.
Mais je pense que ça reste aussi populaire, mais vraiment pour le visuel, en fait. Mais parce que ça a été tellement choquant quand le premier est sorti. Et il a attendu 13 ans pour avoir assez d'avancées technologiques pour faire un deuxième encore plus incroyable, que les gens, ils ont vraiment été attirés par le visuel qu'il allait avoir derrière le deuxième film, je pense. Et il nous a pas vraiment déçus, honnêtement. C'était
c'est ça qui est assez fabuleux, c'est qu'on a attendu 13 ans, et le 2, je trouve, il est pas du tout décevant. Enfin, voilà. Après, j'avais pas une attente de fou. Pendant 13 ans, je me suis pas levé en disant...
C'est ça qui fait qu'il est pas décevant.
Mais il fallait quand même que ça soit un sacré film, quoi.
Voilà. Ah oui, c'est sûr. Parce que bon, je sais pas combien ça a fait d'entrée, mais sûrement pas autant que le premier, mais bon.
Oui, après le premier, c'est celui qui a. Avec Avengers Endgame, c'est celui qui a le plus gros box-office de tous les temps.
Après le premier, c'était un choc à cette époque.
Mais Avatar 2.
C'était. Nous, maintenant, on est une génération où des films comme ça, avec des visuels aussi impressionnants, des techniques utilisées aussi incroyables, pour nous, c'est devenu normal, en fait. On voit ça dans presque tous les films hollywoodiens. En tout cas avec un assez bon budget, mais pour le premier Avatar, c'est vrai que ça devait être incroyable quand c'est sorti.
Cela dit, il y a quand même eu un sacré succès au Avatar 2, puisque du coup, derrière les deux que je viens de citer, Endgame et Avatar 1, c'est quand même celui qui a le plus eu d'argent et donc plus eu d'entrée, quoi. Mm. Du coup, bon.
Ouais, c'est sûr. Bah, c'était. Bah, voilà, en fait, c'était une bombe, quoi. Mm. Le premier, c'est une bombe qui a été lâchée, donc c'était quand même assez impressionnant.
Et du coup, pour terminer juste vite fait le débat, je voudrais parler aussi des autres films qui parlent un peu de l'eau, enfin qui filment l'eau en tout cas, parce que ce qui est intéressant avec l'eau, c'est que déjà elle peut être dans le cinéma de plusieurs manières, puisqu'il y a la mer, il y a aussi la pluie, la neige, tout ça. Par exemple, la pluie, moi j'ai pensé à Singing in the Rain, où l'eau est présente tout le temps, sans qu'on pense forcément à l'eau, comparé à Avatar où il y a une vraie réflexion, voilà. Donc, je disais tout à l'heure que depuis le début du cinéma, on filme la nature, tout ça. Mais l'eau, c'est ça. Parce que notamment, il y a un film de Louis Lumière en 1900, La barque sortant du port. Où on voit du coup l'eau de la mer avec une barque dessus. Et dès le début, ça a été filmé. C'est intéressant. Je pensais aussi aux Dents de la Mer, où l'eau est présente partout, évidemment. Et l'océan est peut-être porteur d'une menace toujours qu'on sent, quoi, mais qu'on voit pas. Et je pensais aussi à la scène finale des 400 coups de François Truffaut, où la mer, du coup, vous avez le petit Antoine Doinel qui est un peu emprisonné par sa famille, par l'école, tout ça, tout le film, et qui s'enfuit devant la mer, enfin qui s'enfuit à la plage devant la mer, dans la dernière scène, qui est symbole du coup la mer de liberté. Je trouve ça magnifique, même s'il n'y avait pas de réflexion écologique derrière.
Je l'ai même pas vu.
Mais,
c'est une des scènes les plus connu du film et notamment du cinéma de cette époque, parce qu'il y a vraiment une très longue scène de travelling où on voit le petit courir vraiment pendant super longtemps. Et vraiment il arrive et c'est vraiment, on se dit c'est bon, il s'enfuit, il part et tout, et en fait c'était juste pour arriver du coup, comme tu disais, au symbole de la liberté, c'était l'océan et un inconnu qu'il pourrait explorer.
C'est ça, donc il n'y a pas de réflexion forcément écologique chez Truffaut, parce que bon, c'était il y a longtemps, mais je trouve ça assez beau l'eau qui représente cette libération-là de la famille, de tout ça. Quoi.
Ok, bah parfait. Donc Morgane, à toi.
Et du coup, moi je vais vous parler du vent, et pour ça je pars de l'autre côté du globe, au Japon, avec le réalisateur Hayao Miyazaki et les studios Ghibli, pardon. Et leur célèbre film Nausicaa de la vallée du vent. Alors du coup, c'est un film sorti au Japon en 1984, qui est adapté du manga du même nom. Et les thèmes principaux du film, ce sont l'écologie, le pacifisme et une approche manichéenne, comme on a dans Avatar. C'est un film d'aventure et de science-fantasy post-apocalyptique, qui se passe 1000 ans après une catastrophe écologique qui a été causée évidemment par l'humanité. Et du coup, la Terre, elle est en grande partie recouverte par une forêt toxique qui est appelée Fukai. Et cette forêt est protégée par de gigantesques insectes nommés les Omu. Les derniers bastions de l'humanité tentent de survivre dans un monde où l'air du coup est souvent irrespirable et où la guerre continue de sévir malgré tout. Hein. Ils sont vraiment dans le pire des cas, mais ils continuent à faire la guerre. C'est vraiment l'image de l'humain par excellence.
Ouais, souvent chez Miyazaki d'ailleurs. On sent que c'est un trauma du Japon de la Seconde Guerre mondiale.
Et du coup, on suit une jeune fille, une jeune princesse, Nausicaa, princesse de la vallée du vent, qui est une région du coup épargnée par la toxicité, grâce à la puissance des courants d'air. Et elle est notamment celle qui découvre que la Fukai n'est pas une menace, mais un processus naturel de purification de la Terre. Et que du coup, face à la menace militaire du royaume de Tolmekia, celui qui est tout le temps en guerre, qui souhaite détruire la forêt à l'aide d'une arme ancienne, Nausicaa va chercher une voie pacifique pour protéger l'équilibre fragile du monde. La question du vent dans ce film, elle est vraiment omniprésente. Dans le titre notamment, on la retrouve. Hein, ça met en avant du coup l'importance qu'a cet élément dans l'intrigue du film. Et que c'est vraiment un élément central et symbolique. C'est vraiment un élément central et symbolique qu'on retrouve dans tout le film et dans toute son histoire. On le retrouve notamment dans la vallée du vent en elle-même, le royaume dans lequel Nausicaa vit, qui est protégé du coup par les puissants courants d'air et qui empêche les spores toxiques de la forêt de s'installer. Et du coup, l'air pur devient un symbole de protection et d'harmonie avec la nature. C'est un peuple qui vraiment semble vénérer le vent. Il y a une scène notamment où il y a une mère qui demande, alors elle ne demande pas directement au vent, mais elle veut mettre en avant le fait que le vent doit protéger son enfant, que c'est comme si c'était un dieu en fait. Ensuite, on a le vol. Nausicaa, elle, c'est une aviatrice qui utilise un planeur pour s'envoler dans le ciel. Elle s'élève au-dessus des conflits terrestres et adopte du coup une perspective plus large. Son lien avec le vent lui confère un rôle messianique, celui d'une messagère entre les hommes et la nature. Elle ne fait qu'un avec le vent lui-même et comme lui, elle est une messagère de paix, une pacifiste. C'est aussi le personnage qui représente du coup la liberté et la neutralité. C'est comme le vent, un élément neutre et sage. C'est celui qui a un point de vue extérieur et qui se fait médiateur de conflits. Là, du coup, on n'a pas trop la question écologique, mais plutôt une question de paix qu'on retrouve beaucoup dans les films de Miyazaki.
Mais oui, j'allais dire, c'est drôle de voir que Miyazaki, en fait, toute sa carrière, parce que là, on parle de 84, mais il a fait un film encore en 2023, quoi. C'est long, hein. Et il a quasiment toujours les mêmes thèmes, toujours la même philosophie de vie. C'est assez... Voilà, je vais te laisser continuer, mais c'est assez passionnant.
Non, mais c'est exactement ça. Et notamment, dans plusieurs de ses films, l'élément du vent y revient. On a notamment, c'est Le Château dans le ciel. Alors là, c'est carrément une cité qui flotte, du coup, dans les airs. C'est la cité flottante de Laputa. C'est le vent qui est un symbole, du coup, d'élévation technologique et spirituelle. C'est un peuple qui est très sage, qui est très... qui est en paix, en fait. Il y a toujours, derrière le symbole du vent, il y a toujours le symbole de la paix. Et c'est comme si c'était l'élément qui était relié, du coup, à cette idée que l'humain, visiblement, a du mal à ancrer. Et il y a aussi Porto Rosso. Là, c'est encore la question de l'aviation, qu'on retrouve également dans le film Le Vent se lève, également de Miyazaki.
Ouais. En plus, sachant que Le Vent se lève, ça devait être son dernier film de base. Donc, il l'aurait dédié au vent. Enfin, ça aussi, c'est... Ça, c'est fort.
Non, mais
ça, c'est
fort. Le dernier, c'est...
C'est le garçon et le héron, tout
c'est
à fait.
C'est un oiseau. C'est aussi. Un oiseau qui est lié au vent. C'est vraiment très présent dans son film. En fait, dans tous ses films, on retrouve tout le temps des personnages soit qui s'envolent, soit qui partent dans une liberté, dans une certaine liberté, mais toujours avec une symbolique du vent
c'est
derrière.
Ça, le vent, c'est toujours un envol vers la liberté, vers... Oui, oui, c'est exactement ça. C'est un symbole d'une espèce de libération du corps. Voilà.
Et toujours, comme je disais, de neutralité, de paix. Bon, on les retrouve, cette idée, on la retrouve aussi dans Avatar, le dernier maître de l'air, où là, du coup, le médiateur entre plusieurs conflits, notamment la nation du feu et les autres nations, c'est le dernier maître de l'air, justement, Aang. Et c'est cet élément qui sert de médiation, en fait. Ici, c'est avec le personnage de Nausicaa, qui est une héroïne pacifique, C'est un personnage très intéressant qui s'oppose un peu à une autre princesse dans le film, celle du peuple, notamment guerrier, qui, elle, prône la destruction de la forêt, alors que Nausicaa est pour sa protection et l'entente commune entre les deux, l'humain et la nature. Et du coup, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est le vent qui est vraiment symbole de paix, de neutralité, de sagesse aussi. Ça montre un aspect de la nature qu'on doit protéger et que vraiment, en fait, l'homme ne devrait pas chercher à soumettre la nature, mais plutôt à travailler avec elle pour aller plus loin.
Tu te laisses commencer ou...
Vas-y, parle.
Allez. Donc moi, je commence à me mettre un peu au Ghibli. Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours été, pas réfractaire, mais c'est quelque chose qui m'attirait pas du tout au premier abord. Et ça y est, je suis en train d'y mettre là.
Ah.
Alors, petit à petit, j'ai dû en voir 3 ou 4, je crois. Et là, du coup, c'était l'occasion d'en voir un nouveau. Et je suis toujours autant impressionné par l'imagination, par la construction de l'univers, etc. C'est quand même un studio de génie, dans le sens où vraiment c'est vraiment limite, on dirait que c'est un art à part, quoi. Donc c'est très intéressant. Après, ça, ce qui est bien, c'est que c'est de 84, mais franchement, ça se regarde toujours très très bien.
Oui.
Il n'y a aucun problème là-dessus.
C'est ça, l'animation, elle vieillit pas, parce qu'en fait, c'est pas comme les films américains d'aujourd'hui où c'est en 3D, tout ça. L'animation 2D des Ghibli, des vieux Ghibli, elle vieillit pas.
Ouais, c'est impressionnant. C'est l'année, même pas
elle se voit pas dans le film.
Ah ouais, c'est même pas
moi vraiment quand j'ai vu que c'était aussi vieux que 84, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que c'était quand même plus récent, mais
ça déjà c'est très cool. Et après c'est intéressant parce que ça expose aussi un possible futur, mais en termes de relations entre les humains, quoi. On est sur des guerres de prise de pouvoir, etc. Donc au final, ça change pas vraiment de la nature humaine au premier sens du terme. Après, voilà, je trouvais que c'était vraiment un univers très inventif. Je passe toujours un bon moment devant les Ghibli. C'est pas un truc que je regarderai en boucle, parce que je les découvre petit à petit, et c'est pas un truc dont j'ai envie de me saouler. Mais c'est vraiment, j'ai trouvé Nausicaa très très intéressant à regarder, et je rate en général pas grande occasion de découvrir un film, et du coup j'étais très content de découvrir celui-ci, et je vais continuer sur ma lancée avec les Ghibli là. Je vais aller jusqu'à la fin, je pense.
Ouais.
En tout cas, je te conseille, parce que ça vaut vraiment le coup.
Ouais, c'est vraiment des très beaux films. Franchement, je suis très content de découvrir ça petit à petit.
Ouais, c'est ça, tous les films de Miyazaki. Hayao, attention, pas le fils, parce que le fils, c'est pas
c'est
pareil.
Il y en a deux.
Ouais, mais tous les films de Miyazaki sont incroyables, et la majorité de ceux de Ghibli, parce qu'il n'y a pas que Miyazaki, sont incroyables aussi. Donc on les recommande tous aux auditeurs aussi.
Ouais, franchement.
Moi, ce que je trouve incroyable chez ce réalisateur, c'est que la question écologique, à chaque fois, ça n'a pas l'air d'être ce qui l'intéresse le plus, honnêtement. On le sent un peu dans ses films, comme dans son caractère à lui. Mais c'est vrai que c'est une question que, du coup, les spectateurs qui regardent les films, eux, arrivent à voir. Parce qu'en fait, Miyazaki, lui, il crée un monde, il dépeint un monde avec son art qui n'existera jamais ici. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais, voilà.
Mais je trouve que c'est la nature, c'est plutôt dans son état d'esprit, c'est-à-dire l'état d'esprit de Miyazaki, et ça se voit dans ses interviews et surtout dans ses films, c'est être un peu zen, quoi, c'est-à-dire très neutre, pas en guerre, pacifique, et au final vivre dans une nature harmonieuse, tout ça. Et pour cela, il faut célébrer la nature. Et ça, du coup, atteindre cet état d'esprit parfait, selon lui, c'est respecter la nature. Et c'est un peu voler comme ça, être libéré totalement. Et ça passe par une représentation de la nature, comme tu en as parlé.
Moi, je pense que c'est cette idée d'être libre. C'est pas seulement, voler comme il représente dans tous ses films, mais c'est être libéré des attentes humaines, en fait. Plus des préjugés qu'on a, et des... des attentes de la société, en fait. C'est vraiment cette idée où, pour être libre et du coup en harmonie avec la nature, il faut se détacher un peu du côté humain, civilisé qu'on est, se sentant supérieur à tout, et se mettre un peu de côté, en fait.
Voilà. C'est bon, donc nickel, on a nos deux premiers films.
J'aurais pas mieux dit. intégralement d'accord.
On a nos deux premiers films, donc ça c'est très très cool, on a un petit peu de diversité. Moi, je vais repartir du coup pour mon film sur du bon gros blockbuster des familles. Malheureusement, je suis désolé, mais bon, dès que je peux le placer, celui-là, je manque pas l'occasion. Donc moi, je vais vous parler d'Interstellar et donc de l'élément donc de la Terre, donc qui est sorti en 2015, si je dis pas de bêtises.
2014, je crois.
J'ai même pas noté l'année. Je fais vraiment mal mon taf. Donc qui a été réalisé par Christopher Nolan, à qui on doit la trilogie de Dark Knight, Memento, Le Prestige, Oppenheimer, Inception, etc. etc.
Tenet.
On doit Tenet. Tellement de bons films à Tenet. Ce réalisateur, ouais. On peut pas les compter.
Ça, mais pour moi, c'est comme James Cameron, c'est des gens, il n'y a même plus besoin de préciser qui c'est. Quoi.
Non, voilà. Même si j'ai détesté Tenet, mais bon, c'est pas très grave.
Ouais, moi, c'est pour ça que je dis Tenet, parce que tout le monde le déteste, ce film.
C'est horrible, ce film. Donc Interstellar, en ce qui concerne le scénario, c'est Christopher Nolan avec son frère qui a écrit, et pour la musique c'est Hans Zimmer qui est à peu près sur 80% des blockbusters qui sortent, donc bon, mais il fait toujours du très bon travail et ça fait toujours plaisir. Je pense même à mon avis que c'est la meilleure bande son qu'il ait jamais composée. Ensuite au casting on a Matthew McConaughey, j'espère que j'ai bien prononcé, ça va je crois.
Bravo.
Donc on a vu dans Dallas Buyers Club, dans True Detective aussi, on a Anna Taoué qu'on a vu dans Le Diable s'habille en Prada, Jessica Chastain dans Zero Dark Thirty et dans The Tree of Life, et Michael Caine, Casey Affleck. Bon, il y a quand même un gros casting, mais ce que je trouve intéressant c'est que c'est pas des acteurs qui sont hyper bankable si on les met tout seul, quoi. Matthew McConaughey un peu plus, mais c'est pas non plus des acteurs à ce moment là c'était pas les acteurs qui cartonnaient le plus, donc je trouve intéressant. Donc pour résumer, donc l'action se déroule en 2067 où l'humanité est plongée dans une grave crise alimentaire. On forme des agriculteurs et des cultivateurs et plus des ingénieurs comme c'est expliqué dans le film, car la terre se meurt et elle est de moins en moins fertile. Donc Cooper, qui est le personnage principal, tombe par hasard sur le dernier QG de la NASA, où le professeur Brand le charge d'une mission de la plus haute importance, c'est-à-dire trouver une autre planète pour l'humanité, en fait. Donc voilà.
C'est quand même pas de chance. Hein.
Voilà.
Parce que franchement, il trouve le siège de la NASA par hasard.
Ouais.
Ça lui tombe dessus comme ça, trouve-nous une autre planète.
C'est ça. Genre, vraiment,
et donc voilà, c'est à peu près tout pour le résumé. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Et après, je vous expliquerai pourquoi je l'ai choisi, le rapport à l'écologie, etc. Allez-y.
Moi, ce film, ça a été vraiment incroyable de le regarder. C'était vraiment... J'ai rien compris, mais c'était incroyable. Le début, c'est... Enfin, la première fois que je l'ai vu, j'étais « Oh mon Dieu, je vais jamais y arriver ». Je comprenais absolument rien. Mais après, on va être honnête, je crois que le réalisateur, du coup, Christopher Nolan, a fait beaucoup d'études de métaphysique et de théorie physique derrière pour, enfin, en tout cas, que ouais. Son film soit logique.
Il a fait venir beaucoup de spécialistes aussi, ouais. Je crois, des trous de verre, etc.
Du coup, voilà.
Pour essayer de rendre le film minimum crédible.
Moi, c'est clairement pas le genre de truc qui me parle. Du coup, je dois être honnête, j'avais pas compris au début. Il a fallu que je le revoie de nombreuses fois, surtout la scène finale. Enfin... avant la scène finale, vraiment là où il s'est retrouvé dans l'espace parallèle, là j'étais paumée. Mais
ouais, la première fois c'est bizarre. C'est
mais sûr. Visuellement parlant, le scénario, enfin visuellement parlant, c'est incroyable. Le scénario, il est vraiment génial. Les acteurs ont été incroyables, ils ont vraiment super bien joué. Et vraiment, c'est un long film. Je crois qu'il dure 3 heures quand même.
2h40, je crois, par là.
Ouais, un truc comme ça.
Parce qu'au final, il n'est pas si anodin maintenant. Hein.
Oui, mais maintenant, bon, non.
À l'époque, c'était rare. Ouais.
Mais on ne les voit pas du tout, les 2h40. Moi, perso, c'est passé super rapidement. Et c'est une histoire qui est touchante. C'est une histoire d'aventure aussi, d'un certain côté. Et c'était vraiment un super film.
Ouais, Interstellar, c'est super. Moi, je suis convaincu qu'il y a certains films qui, par décennie, vont influencer des cinéastes futurs. Alors, dans le passé, on a eu dans les années 50 Vertigo, dans les années 60 2001 l'Odyssée de l'espace, dans les années 70 Le Parrain, L'Empire contre-attaque, tout ça. Pour moi, dans les années 2010, il y aura Interstellar. dans le sens où ça a été adoré par le grand public comme par les cinéphiles aussi. C'est juste extraordinaire, franchement, sur tous les plans, visuellement, mais surtout dans l'intrigue qui est extraordinaire aussi. Enfin, moi, je manque de mots pour parler d'Interstellar. Et voilà, c'est juste super, il faut le regarder.
C'est surtout comment il a réussi à tourner un sujet aussi compliqué, genre que même des scientifiques qui travaillent sur ça ont du mal encore à percevoir l'idée. Et il a fait un film sur un sujet aussi complexe pour des gens, un public large qui vraiment n'a pas du tout étudié le sujet. Comme je vous disais, moi, j'avais rien compris. Hein. Et du coup, mais ça m'a pas empêché de trouver le film incroyable, même si j'avais rien compris. Et c'est juste en comprenant et tout, on se rend compte que c'est vraiment un film encore plus incroyable que ce qu'on pensait déjà au premier abord.
Et bien moi, du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le film. Pour moi, c'est un des meilleurs films de science-fiction qui soit jamais sorti. Franchement, ça a vraiment sa place au panthéon de la science-fiction. C'est vraiment un film très complet. Et ce qu'on peut souvent lui reprocher à Nolan, c'est qu'on est obligé de réfléchir en fait à la sortie du film. Moi, je trouve que c'est un aspect très intéressant du cinéma parce que c'est pas un film qu'on regarde une fois qu'on est sorti bon zap et on passe à autre chose. C'est vraiment un film qu'on a envie de revoir, on a envie de comprendre, on a envie de voir ce qui se passe, pourquoi il a fait ça, comment ça a été tourné, etc. Est-ce qu'il y a eu des spécialistes qui ont travaillé dessus? Est-ce que la science est correcte dans le film? Bon, pas tout n'est correct, évidemment, ça en est même très loin, il me semble. Je me suis jamais trop penché là-dessus, mais bon.
Ouais, mais par exemple, la scène du trou noir, à l'époque, on savait pas à quoi ressemblaient les trous noirs puisqu'on n'arrivait pas à les prendre en photo. Et depuis, on y est arrivé. En fait, le trou noir qu'ils avaient reconstruit pour Interstellar ressemble beaucoup au trou noir qu'on a réussi à prendre en photo.
Donc ouais, ça a été...
Ça montre que scientifiquement...
Je pense que tout le film s'est basé sur des théories scientifiques, mais que des théories, il n'y a jamais eu de pratique pour prouver les choses.
C'est quasiment invérifiable, en fait.
Mais en fait, c'est tout ce qui est métaphysique et tout.
Puis même, je crois que l'existence d'un trou de verre, à l'heure actuelle, il me semble que c'est une hypothèse, quoi.
Oui.
Il me semble avoir vérifié il n'y a pas très longtemps, mais je crois que c'est vraiment un truc qui est complètement hypothétique. Autant les trous noirs, on sait ce que c'est, on sait que ça existe, mais les trous de verre, il me semble que c'est même vraiment, c'est purement de l'hypothèse à l'heure actuelle. Donc bon.
Et c'est ça qui est fort, c'est d'avoir fait de l'hypothèse scientifique un ressort narratif.
En fait. Ouais, mais donc vraiment, j'ai choisi ça pour ça. Et aussi, du coup, là vous êtes en train de vous dire, mais. Là, on parle juste d'un film dans l'espace, une fusée qui crame du fuel pour aller sur les planètes, donc rien d'écologique. Mais si, justement. Ce qui m'intéresse aussi dans Interstellar, c'est que c'est un futur très réaliste. C'est-à-dire dans les conditions de vie des gens et dans les relations qu'on pourra avoir dans le futur. C'est-à-dire qu'en gros, dans Interstellar, les humains ils sont trahis par la Terre. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus trop à cultiver, il y a de moins en moins de terre qui est fertile. Et du coup, il n'y a plus à s'amanger. Il y a même le Dr. Brand, donc le Dr. Brand qui est joué par Michael Caine, qui à un moment donné un petit monologue de 2 ou 3 minutes qui explique que des céréales se meurent. Je crois que c'est le maïs qui est en train de mourir, ou qui est déjà mort, et il y a une autre céréale qui est en train de mourir. Et après, il fait une. Alors d'ailleurs, c'est expédié à une vitesse ça. Il dit qu'en gros, il y a des populations qui ont été bombardées pour réduire la famine en fait, et pour éviter. Pour éviter je sais pas quoi d'ailleurs, parce qu'au final il dit juste bon, on s'est rendu compte que bombarder les gens c'était pas la solution. Oui, c'est vrai, bien vu du coup, mais donc c'est expédié assez vite. Je trouve ça dommage, ça d'ailleurs, c'est un petit point faible.
Mais je pense que ça intéresse même pas Nolan en fait, c'est juste il veut dire que ça va pas bien quoi, globalement. Ouais, voilà, il veut passer le plus vite possible sur ça quoi.
Donc ce qui est intéressant du coup, c'est que les céréales se meurent et du coup une base de l'alimentation s'écroule, et ça force certains agriculteurs du film à brûler les cultures pour planter de nouvelles céréales qui seront cultivables et du coup pouvoir survivre. C'est intéressant parce que du coup les humains, à force d'exploitation etc., se retrouvent au pied du mur. Ce que je trouve intéressant, on peut le relier à la réalité parce qu'en ce moment on est l'agriculture est beaucoup confrontée à beaucoup de catastrophes naturelles etc. Les récoltes sont quand même assez compliqués. Enfin, c'est pas plus compliqué qu'avant, mais c'est beaucoup plus irrégulier. Et du coup, ça devient quand même assez compliqué d'année en année. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les différentes planètes qu'ils visitent sont complètement hostiles, en fait. Sauf là, bah, du coup, bon, je peux spoiler, c'est quand même sorti il y a longtemps. Mais sauf la dernière, du coup, qui est viable pour l'humanité, mais du coup, qui est abordée très peu de temps à la fin, parce que, bon, voilà. Et du coup, les environnements sont impropres à toute condition de vie, en fait. C'est ce qu'on voit sur les deux planètes ouais. Qui visitent. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant, parce que du coup, les humains se retrouvent vraiment trahis par l'écosystème. Et c'est que juste résultat des années d'exploitation et des années vraiment de maltraitance de la nature. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que c'est vraiment un futur qui est très crédible. Alors, pas dans les conditions scientifiques, c'est-à-dire visiter d'autres planètes, etc. Mais sur l'agriculture, c'est vraiment quelque chose qui pourrait très bien arriver, quoi. Qu'on puisse, qu'il y ait de moins des terres de moins en moins fertiles, etc.
Ce qui est intéressant, alors pour raconter ma vie, en fait, j'ai fait un exposé en première sur Interstellar.
Ouais.
Et j'avais étudié que justement ça c'était influencé par le Dust Bowl aux États-Unis. Mm-hmm. Alors je sais pas si t'as prévu d'en parler.
Non,
en gros, c'est un phénomène qui est arrivé à la fin des années 20 aux États-Unis, où il y avait dans le centre américain, donc là où il y a des récoltes, de l'agriculture, tout ça, il y avait des espèces de tornades de poussière en fait qui rendaient impossible au maïs et aux cultures de bien développer, bien se développer. Et donc il y a eu une grosse, pas famine, mais il y a quasi
tout,
plus
hein.
d'agriculture au milieu des États-Unis pendant un an, quoi. Et les témoignages à la fin d'Interstellar sur des vieux qu'on voit à la fin qui parlent, ah oui, sur la Terre, il n'y avait plus de maïs et tout, en fait, c'est la retranscription de témoignages de survivants du Dust Bowl. C'est pour ça qu'en fait c'est aussi réaliste, c'est parce que c'est arrivé en fait. Voilà.
Non, c'est vrai, putain, j'avais zappé, en plus je l'ai étudié en histoire américaine, on en avait parlé vite fait, mais oui, c'est vrai que c'est... Oui, du coup, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être très très envisageable, et c'est ça qui est impressionnant avec Interstellar, et aussi on se pose la question du rétropédalage, parce que maintenant, on se rend compte qu'il y a aussi ben, beaucoup de gens comme nous qui font des études et qui se retrouvent avec des diplômes, etc., à rallonge et qu'on sait plus quoi en faire au final. Mais on se pose la question du rétropédalage, est-ce qu'il faut pas revenir beaucoup plus à des métiers qui cultivent la terre, étant donné qu'il y a beaucoup plus de monde à nourrir, etc. Ça serait intéressant, enfin ça aborde cette question là qui est aussi intéressante à étudier. Et voilà, moi j'ai choisi Interstellar parce que comme j'ai dit, dans la science c'est pas forcément très réaliste. Mais dans les raisons qui poussent à visiter les autres planètes, etc., c'est quelque chose qui pourrait très bien arriver. La surpopulation, c'est pas hypothétique. Le manque de nourriture non plus. Il y a de plus en plus de gens qui manquent de nourriture alors qu'il y a de plus en plus de monde. Donc c'est très crédible là-dessus.
D'ailleurs, c'est un postulat intéressant. Christopher Nolan, il part d'Interstellar du postulat que la Terre, elle est finie en fait. Là où pour moi, Cameron, par exemple, on en parlait au niveau de l'eau, il a encore foi en la Terre, j'ai l'impression. Mmh. C'est-à-dire, il dit... je vous montre la Terre pour que vous la sauviez. Moi, pour moi, Nolan, je pense qu'il a mis une croix sur la Terre. Pour moi, il dit dans Interstellar, à travers ses personnages, que c'est fini, quoi, et qu'on doit aller ailleurs.
Ouais.
C'est un postulat intéressant, voilà.
Ouais, c'est sûr.
Moi, je pense que c'est quand même plus réaliste que ce que tu disais. Enfin, c'est vrai que du côté scientifique, j'ai pas d'idée parce que c'est pas du tout mon domaine. Mais on parlait de chercher d'autres planètes vivables pour les humains. Et ça a déjà commencé, en fait.
Oui, oui, oui.
Ça, on commence déjà à chercher des planètes sur lesquelles on pourrait vivre, ou alors trouver des moyens de vivre sur des planètes
qui sont pas habitables
pour nous, mais on essaie de trouver des technologies qui pourraient nous aider. Et bah, c'est vrai que ça fait un peu peur, quand même, de se dire comme ça. Si on part du principe que on suit les scénarios, là par exemple d'Interstellar, enfin le début, personne ne veut un début comme ça, quoi. Enfin.
Ah oui, c'est sûr que ça fait très peur. En plus, ce qui est choquant, c'est que c'est en 2067, donc en soi c'est assez loin. Mais bon, on se dit que d'ici 40 ans, il y a beaucoup de chemin qui peut être parcouru.
Ouais, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver.
Ouais. Donc ouais, c'est très intéressant là-dessus. Vous voulez qu'on parle un peu du feu, du coup?
Ouais.
Qui veut commencer?
Moi je veux bien.
Allez, super.
Du coup, pour le feu, il y avait un film que moi j'adore. C'est l'un de mes films catastrophes préférés. Ça s'appelle Volcano. Alors, du coup, je vais quand même aller faire quelques recherches parce que. Ok. Mais du coup, c'est un film de Mick Jackson, dont le scénario a été écrit par Jerome Armstrong et Billy Ray, qui est sorti en 1997 aux États-Unis, même chose en France, dans le reste du monde, je sais pas. C'est un film catastrophe avec du, évidemment de l'action. Du coup, le synopsis, ça se passe à Los Angeles, et alors qu'un tremblement de terre réveille une activité volcanique sous la ville, un volcan surgit en plein centre-ville, hein, si c'est possible, je ne sais pas. Et bien sûr, ce volcan est en éruption, et du coup, libère de la lave et met en danger ben, les millions d'habitants enfin, de Los Angeles. Et du coup, on a Myrock, joué par Tommy Lee Jones, qui est un directeur des services d'urgence, et la géologue Amy Barnes, jouée par Anne Esch, qui doivent trouver un moyen de stopper l'avancée de la lave avant qu'elle ne ravage toute la ville. Alors là aussi, dans ce film, enfin, pour moi, c'est comme dans tous les films catastrophes. C'est à peu près comment la nature peut reprendre ses droits sur l'homme tellement facilement que nous, on peut rien faire. Bon, là, en l'occurrence, ils ont réussi à sauver Los Angeles. Voilà, est-ce que c'est possible en réalité? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu de volcan en plein centre-ville.
Non, c'est sûr.
On a arrêté depuis Pompéi. Ouais.
Mais du coup, c'est un aspect de ce genre de film, les films catastrophes comme 2012 ou alors Geostorm.
Oh, ouais, ce que je veux dire, il y en a plein. En fait.
Il y en a énormément. C'est un aspect de ce genre de film.
Ouais, wow, Moonfall.
Ouais. Non, en fait, j'ai l'impression que les très crédibles films de catastrophe, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a aucun.
Ouais, c'est vraiment... on se dit, même 2012...
C'est... 2012, c'est le pire.
Ouais. Ouais.
2012, il y a tout qui se passe en même temps.
Ouais, c'est...
On a séisme, on a tsunami, ouais. On a tempête. Mais bref, je pense que vraiment le meilleur genre de film pour montrer l'impact écologique et la force de la nature en elle-même, ça reste quand même les films catastrophes. Alors dans Volcano, il n'y a pas vraiment la question écologique derrière, mais il y a la question de du coup la nature qui reprend ses droits sur la civilisation humaine. Un volcan qui arrive en plein centre-ville, c'est une image très forte quand même. Et même s'ils ont réussi à stopper l'avancée de la lave, ils ont quand même, elle a quand même fait de gros dégâts et ça a quand même traumatisé la plupart des habitants de Los Angeles et du monde entier qui se sont dit là faut prendre en main le bordel qu'on a créé et se mettre dans une optique où il va falloir faire quelque chose quand même. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de poser la question du feu dans le film, hein. Ça me paraît plutôt obvious. C'est de la lave, ça chauffe. Et du coup, je vais donner la parole à qui veut parler.
Pour parler du feu, j'ai choisi le documentaire, une fois n'est pas coutume, Fire of Love, donc qui est sorti en 2022, qui est accessible sur Disney+. Donc regardez-le si vous avez Disney+, même si vous ne l'avez pas, d'ailleurs. Et donc ça a été réalisé par Sarah Dossa. C'est narré par Miranda Julie, donc une actrice. Et pourquoi je dis pourquoi c'est important, parce que du coup l'heure et demie de film est entièrement narré par elle, qui raconte l'histoire donc de Katia et Maurice Kraft, qui étaient un couple de volcanologues français des années 80-90, qui en fait ont filmé leur expédition, expérience de volcanologue. Durant ces années-là, avec une petite caméra, donc c'est un peu l'ancêtre du vlog au final. Et ce qui est très sympa, c'est qu'ils sont très attachants. Et donc, avec cette narration de Miranda Julie, c'est très touchant parce qu'il y a un peu une. En fait, ils sont morts à cause de la nuée ardente d'un volcan. Et donc, on sait ce qui va leur arriver. Et ça, c'est très triste. Et du coup, il y a une voix un peu monocorde là, de Miranda Julie qui rend le film assez triste en fait. Et qui contraste avec la joie de Katia et Maurice Kraft, qui est un petit couple de volcanologues tout mignon et qu'on voit filmer pendant l'heure et demie de film. Donc là, le feu, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de réflexion écologique dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que là, le feu symbolise, comme c'est marqué dans le titre, en fait, l'amour entre Katia et Maurice Kraft, non seulement entre eux deux, mais aussi leur amour des volcans. Donc c'est vraiment un documentaire génial qui a été nommé aux Oscars d'ailleurs, et qui met le feu au centre de ses préoccupations et qui le met dans son titre. Voilà.
Et donc du coup, moi je vais vous parler, alors ça va être très très vite fait parce que franchement, on a prévu la rubrique du feu juste avant de tourner l'émission. Moi je vais vous parler vite fait de Mad Max Fury Road, du coup, qui est sorti en 2015, réalisé par George Miller avec Tom Hardy, Charlize Theron, il y a plein d'acteurs, vraiment Zoe Kravitz, Nicolas Hoult, etc., etc. Donc Mad Max Fury Road, c'est un film post-apocalyptique où la Terre est devenue quasiment inhabitable et où il y a très peu de survivants. Et du coup, on fait face à des guerres de territoire entre le méchant principal du film, donc, qui est Immortan Joe, et Max, qui au départ est un loup solitaire, en fait, qui vraiment vit dans la nature et se contente de survivre lui. Et dû à son passé qui est vraiment extrêmement solitaire et qui se préoccupe de personne et qui a aucun remords à voir quelqu'un mourir devant ses yeux si ça le concerne pas. Donc ce qui est intéressant avec Mad Max Fury Road, c'est que l'une des ressources principales dans le film, c'est l'essence, et du coup on s'en sert énormément pour faire des explosions, etc., et le feu est utilisé comme arme principale, en fait, comme même limite ressource principale pour la destruction. Ce que j'ai trouvé intéressant. Et le feu peut être vraiment associé comme un outil de domination, en fait, vraiment, parce que c'est les véhicules, etc., toutes les armes sont montées à base de flammes. Et je trouve que c'est la représentation du feu qu'on peut se faire, donc quelque chose de vraiment de destructeur et d'apocalyptique, et c'est très bien utilisé dans Mad Max Fury Road. Après, voilà, j'ai pas plus de choses à dire, c'était vraiment histoire de discuter un peu du feu pour avoir fait les quatre éléments du thème. Et voilà, c'est à peu près tout. Merci de nous avoir écoutés. On va s'arrêter là pour cette fin d'émission. Je suis très content d'avoir fait la première émission avec vous. Il ne manque plus qu'à choisir un thème pour la prochaine. Donc je leur dis merci beaucoup de nous avoir écoutés, et
merci.
À la prochaine sur Radio Campus Faux. Merci.
Au revoir.
Au revoir.